بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Traduction du verset de la sourate Al-Insan, de lequel nous sommes en train de voir les qualités des gens qui sont déjà dans le paradis. Et ça, c'est une scène qui est magnifique, parce que Allah nous donne la possibilité de faire une rétrospection, de déterminer quelles étaient les qualités de ces personnes qui sont en train de boire des fleuves et des sources du Jannah. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce dunya pour arriver là, pour obtenir ce Jannah, pour obtenir la satisfaction et le contentement d'Allah Azza wa Jal. J'ai un problème de connexion, je suis désolé. Il y a des gens qui suivent en ligne et ça marche pas mon lien. Ça me casse la tête avec ça, plutôt là, non ? Ah, ça marche. Ouais, maintenant ça marche. Oui, bon. On reprend. Donc, on continue donc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est en train de voir quelles sont les qualités. Quelles sont les qualités qui font que ces personnes ont eu accès au Jannah, au paradis, et qu'ils ont obtenu le contentement d'Allah Rabbul Izzah, et qu'ils ont cet honneur de boire des fleuves et des ruisseaux du Jannah. Et parmi les qualités qu'on a eu l'occasion de voir, c'était, allez, on ne va pas citer tout ce qu'on a déjà vu, parce qu'on va prendre un peu de temps pour faire ce genre de révision. On va juste rappeler le dernier verset qu'on avait vu la dernière fois, « يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ سَكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ». Et on avait expliqué les différents textes en rapport avec l'importance de donner à manger aux gens. Et on a vu que c'est des personnes qui n'étaient pas forcément très aisées, n'avaient pas beaucoup de moyens, mais malgré ça, ils faisaient en sorte de donner pour Allah. Et là, on va voir « إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ». En fait, ces deux versets auraient dû être faits en même temps, parce qu'il ne faut pas les dissocier. Mais bon, question de timing, la dernière fois, on n'a pas pu voir la deuxième partie. Mais c'est pour ça qu'il faut faire une petite accroche avec la première partie, que ces personnes étaient eux-mêmes parfois dans le besoin, mais malgré ça, ils donnaient pour Allah. Et on avait vu donc que ça, c'est une qualité essentielle du croyant, de faire passer le droit d'Allah avant ses propres droits. Toi, tu as des attentes, tu as des envies, tu as des besoins, et tu as des motifs de satisfaction. Le fait de voir ton épouse, tes enfants bien manger, que toi-même tu manges bien, que tu as le ventre plein, ça fait partie de ce que tout être humain et tout père de famille souhaite. Mais tu sais que notre Seigneur Rabbul Izza aime qu'on partage. « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » qu'on donne de ce qu'Allah nous a octroyé. Et donc, tu fais passer le droit d'Allah avant ton propre droit. Et ça, c'est pour ça qu'on a insisté sur le thème « عَلَى حُبِّهِ » malgré le fait qu'eux, ils aimaient, ils avaient besoin de cette nourriture, ils donnent pour Allah Rabbul Izza. Ce n'est pas la personne qui en a, qui a énormément et qui donne un peu et que ça ne le perturbe pas, ça ne va pas l'atteindre, cette petite aumône qu'il va donner. Ça, on avait bien développé. Il me semble que c'était là plus ou moins bien expliqué. Et il reste toujours quelque chose. Il restait un récit pour nous faire comprendre par excellence l'histoire d'un sahaba qui avait donné alors qu'il était lui-même dans le besoin. Alors, plutôt que d'aller en mode devinette, quoique vous savez, c'est une sunnah, hein. C'est une sunna hein, de poser des questions aux gens à propos de quelque chose pour essayer de motiver les gens à trouver la réponse. Par exemple, une fois, avait posé une question au sahaba à propos d'un arbre, le nom d'un arbre qui a telle spécificité. Et les sahaba, ils ont tous essayé de répondre. Et le seul qui avait la réponse, si je ne me trompe pas, c'était Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Je vérifierai le hadith, qui par pudeur, parce qu'il était un enfant, il était petit comme toi, comme Sajjad, il était petit et il n'a pas osé prendre la parole devant des adultes. Donc ça, c'est une sunnah, ça. dans la pédagogie de donner l'occasion aux gens de répondre à des questions. Et donc, ok, quel est ce récit ? يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Ça vous dit quelque chose ce verset, Abdul Rahman ? Il n'arrive là d'autres révisions ? J'espère que oui. Un homme, et quand tu vois le prophète alayhi salatu wassalam, un sahaba, qui était vraiment dans le besoin. Et quand on dit dans le besoin, hein, c'est pas comme nous. Nous, des fois, on est coincé, les fins du mois sont difficiles, mais personne ne meurt de faim, alhamdulillah. Personne ne meurt de faim, alhamdulillah. Au pire, tu prends une demi-baguette, tu mets un peu de beurre, d'accord ? Comme Maurice, un macatia avec de beurre plume, d'accord ? Il existe encore ça ? D'accord ? Ou tu manges, tu ne meurs pas de faim, bi-idhnillah, et qu'Allah nous protège de l'épreuve de la faim. C'est une grande épreuve ça. Wa lanabluwannakum minal khawfi wal al-jou'. Al-jou' c'est la faim. Et ce n'est pas quand tu as faim dans Ramadan, ce n'est pas une épreuve ça. Parce que quand tu as faim de Ramadan, on va dire oui, c'est une petite épreuve, mais c'est pour obtenir des récompenses. Mais quand tu as faim le mois de Ramadan, tu sais que le soir tu vas manger. Al-jou', c'est la famine, la disette, quand il n'y a plus rien à manger. Allah nous protège de sa situation. De voir tes enfants qui te demandent, papa, j'ai faim et que tu n'as rien à leur donner. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Et qu'Allah vienne en aide à toutes les populations musulmanes, Allahu Akbar, qui sont dans la famine, dans les difficultés. Nous n'avons que nos invocations pour eux. Je reprends. Oui, le sahaba voit le prophète, dit, il pouvait demander quelque chose à manger, il avait rien. Le prophète lui-même n'avait rien, Allahu Akbar. Nabiyur Rahma, prophète d'Allah, il n'a rien à manger lui-même. Et donc il envoie ce sahaba, cette personne, chez un autre compagnon. Et cette personne va dire que le prophète m'a envoyé chez toi pour que tu partages, pour qu'on mange ensemble, parce que je n'ai rien à manger. Imaginez que vous-même, vous êtes un peu dans la galère, comme on dit. Et que quelqu'un vient chez vous, cogne la porte. Salam alaikum, Abdurrahman, ça va? Abdurrahman, tu n'as pas un petit truc pour manger? Déjà, nous, dans notre réaction hyper concentrée sur nous-mêmes, extrêmement égoïste, on va dire que oui, mais c'est un leurre pour déranger le monde. Là, on a mis ça à manger, mais avec mon madame, avec mon enfant, nous, dans la famille, que ça vient mailler, tout ça. Na'oudhu billah. Ça, c'est notre réaction, oui ou non? Wallah musta'an. Sahaba a accueilli cette personne. Et surtout la nouvelle que cette personne vient de la part de Prophète Sallam comme une révélation, que vraiment c'était le plus beau moment de sa journée. Il n'est pas tout voir son époux, dit Allah nous envoie un invité. Le Prophète Sallam nous a envoyé cette personne, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et la femme, pour manger avec la femme, dit mais on a tellement peu de nourriture, c'est juste suffisant pour moi, toi et nos enfants. Regardez dans quelle situation vivaient les Sahaba. Et c'est pour eux qu'Allah a révélé radiyallahu anhum wa radwa'an. Allah était satisfait d'eux. Je fais cette parenthèse, c'est important pour qu'on comprenne que quand Allah aime quelqu'un, hein, il ne va pas forcément lui donner des choses de ce monde, qu'on réalise bien. Et donc par mafhum mukhalafa, par compréhension inversée, quand vous voyez quelqu'un qui est dans des épreuves, des difficultés, qui n'a pas assez d'argent, qui est au chômage, qui a des problèmes, ça ne veut pas dire que la personne est privée de bienfaits. Non. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne l'aime pas. Na'oudhu billah. Quand Allah aime une personne, Allah lui accorde d'autres choses. Qui peut me citer deux choses? Je pense que je vais citer pour gagner du temps. Parce qu'il faut qu'on parle du Ramadan absolument ce soir. J'ai loupé ça mardi dernier. Et si je ne fais pas, là, je vais m'en vouloir. Quand Allah aime une personne, man yuridillahu bi khayra, man yuridillahu bihi khayra, man yukmil. Allahu Akbar, Allah ybarik fi yufaqihu fi din. Allah lui donne la compréhension de la religion. Allah t'aime, Allah te donne le ilm. Pardon, j'ai tapé fort. Excusez-moi. Ah, en fait, c'est l'acoustique. Depuis qu'il y a la clim, c'est d'accord. Quand Allah aime une personne, ça on connaissait peut-être ce hadith. Hein, il y a un autre hadith qui est moins connu et qui est un peu, qui peut nous paraître un peu étrange. Quand Allah aime une personne, yusib minhu. Allah l'éprouve. Ajib. Ajib. Allah t'aime, Allah t'envoie des épreuves. Parce que quand il t'envoie des épreuves, Allah augmente ton daraja, pardonne tes péchés, t'accorde des hasanat, te permet d'accéder à un haut degré de la Jannah. Allahu Akbar, miskin. Il est malade, il est hospitalisé, il rentre à l'hôpital, il sort, ses enfants, sa famille, ils sont tous dans des problèmes. On le dit que vraiment, ça c'est quelqu'un qui fait pitié. Tu ne sais pas. Allah est en train de lui envoyer des épreuves pour le purifier, pour l'élever, pour lui accorder là-haut, alors que de ce dunya, il n'a pas grand-chose. C'est comme ce qu'on avait dit mardi dernier, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, que le cheikh avait dit. C'est pour ça qu'on n'était pas là il y a deux vendredis. Il y avait le cheikh qui a fait un bayan, on avait essayé de traduire. Le prophète sallam qui est allongé, Omar ibn al-Khattab vient le voir complète.
Il avait fait une dispute avec son épouse.
Omar avait discuté avec son épouse. Il va voir le prophète sallallahu alayhi pour trouver un peu de réconfort. Le prophète était allongé. Il s'assoit. Et Omar ibn al-Khattab voit les traces des nattes sur le dos du prophète sallallahu alayhi. Comment il dormait sur quelque chose de fin et zéro confort. Et quand il a regardé son wissada, son oreiller, c'était un morceau, petit morceau de cuir sec. Et Omar ibn al-Khattab s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer du prophète d'Allah, dans quelles conditions tu vis? Alors qu'autour de nous, il y a César, il y a le roi de Perse, ils ont des palais, des châteaux, des coussins, ils ont un confort. Et le prophète, comment il réagit? Il va dire que oui, c'est vrai. Et tout. Nous, quand quelqu'un se lamente à notre sang, on dit oui, c'est vrai, c'est difficile, fais doa pour moi. Omar ibn al-Khattab pleure, et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il rigole. Incroyable ça. Ça, c'est des gens, Allah, wa Nabiullah. Le cœur est avec Allah. Le corps est de ce dunya, le cœur est avec Allah. C'est comme un hadith qui dit, voilà, je m'éloigne. Le texte ne me revient pas, mais c'est en ce sens, l'œil dort, mais le cœur ne dort pas. Le prophète disait ça à propos de lui. C'est khususiyya, spécificité du prophète. On le voyait dormir, mais son cœur ne dormait jamais. Il était toujours connecté avec Allah, Rabbul Izzah, subhanallah. Réaction prophétique quand il voit Omar ibn al-Khattab pleurer et s'apitoyer, hein, entre guillemets, sur son état physique, sa pauvreté. Le prophète sallam rigole et dit, oh, Omar ibn Farouk, tu penses pas que c'est mieux comme ça? En lui faisant comprendre qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de triste, il n'y a rien de dramatique. Allah leur a accordé de ce dunya, ils n'auront rien là-haut. Mais moi, je trouve pas que c'est mieux que de ce dunya, Allah ne nous accorde aucun bienfait. Pas de confort, mais Allah nous garde tout pour nous de l'au-delà. Et là, Omar ibn al-Khattab comprend, il comprend. Alors que ce récit a lieu à Madina, il y a déjà eu 13 années d'islam à Mecca et pas mal d'années à Madina. Omar ibn al-Khattab, il a déjà un niveau de spiritualité, mais il était encore perturbé par ça. Il comprend. Donc on revient. Oui, donc cet homme, ce sahaba, accueille l'invité d'Allah. Et sa femme lui dit, on a quasiment rien à manger, il y a tout juste suffisant. Imaginez, je vous pose une autre question, hein, chacun réfléchit. Imaginez, vous arrivez à la maison, vous êtes une famille, vous avez madame et combien d'enfants d'Abdurrahman 2? Pourquoi ta petite fille ne vient pas? S'appelle comment? Comment s'appelle ta petite sœur?
Sania.
Sania ou Thania?
Sania.
Machin, c'est un très beau prénom. Un jour tu l'emmènes, d'accord? Ok. Et ta dent, elle pousse toujours pas?
Oui.
Il faut bien arroser avec de l'eau zamzam.
Okay.
Famille avec deux enfants, allez, on va dire quatre enfants, famille nombreuse. Vous passez à table, vous rendez compte que votre épouse, elle a cuisiné. Allah dit, akhir, on oublie de remercier nos épouses qu'elles cuisinent. Pour nous, c'est normal. On est comme des grands pachas, là, on débarque, on s'assoit, hein, amène la nourriture comme si qu'elle était créée pour ça. C'est vrai? C'est comme si qu'elle existe pour ça. Tu sais, il y a des choses que je ne dis pas en public, mais cuisiner, ça fait pas partie des obligations pour la femme, vous savez. Ça fait pas. Mais ça, on le dit entre nous, hein. On ne dirige jamais d'un programme pour dames, sinon on serait bien embêté. D'accord? Donc, on oublie de remercier l'épouse quand elle a cuisiné, ainsi de suite. Imaginez que votre épouse a fait à manger, mais elle s'est trompée dans le dosage de riz. Au lieu de mettre, je sais pas, 3 verres, elle a mis 2 verres ou 1 verre ou je sais pas quoi. Et que vous vous rendez compte qu'il y a très peu, que vous n'allez pas manger à ventre plein parce que voilà, il manque de nourriture. Vous êtes en colère, oui ou non? Vous êtes en colère, oui, mais tu aurais pu réfléchir, t'appliquer, et ainsi de suite. Qu'Allah pardonne nos erreurs, nos manquements et notre ingratitude. Qu'Allah pardonne notre ingratitude. Et donc, eux, ils avaient très peu, mais ils se contentaient, ils allaient partager entre eux. En faisant confiance à Allah, c'est pour ça que le croyant, avant de manger, dit Bismillahi wa ala barakatina. Et baraka, c'est la baraka, c'est la bénédiction. Et que tu demandes à Allah de mettre la bénédiction dans cette nourriture. Et donc l'épouse dit, mais si tu ramènes quelqu'un, en plus, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, vous imaginez qu'est-ce que ça va donner, hein? Nous, Allah musta'an, quand on va rompre le jeûne le soir, la ilaha illallah, combien d'eux? Qu'est-ce qu'on est prêt à manger, à avaler? Combien de samoussa tu manges quand tu casses carême?
4.
Il pèse 22 kilos, il mange 4 samoussa. Son papa qui pèse 4 fois son poids, il doit manger 16 samoussa. Papa mange beaucoup?
Oui.
Oui, il ne faut pas dire. Donc, quand on a faim en plus, après une journée de jeûne, comment on mange? On est content. D'une certaine façon, je suis en train de parler du jeûne aussi. Hein. Et ça, c'est un grand ni'amat, hein, de rompre le jeûne que tu as mangé. Allahu Akbar. La Palestine, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Je ne sais même pas quoi vous dire. Ah là là, avec ce qui s'est passé, 110 morts, convoi humanitaire. Allahu Akbar. Témoignage de personnes qui sont sur cet endroit, je ne sais pas si c'est une plage, il me semble, non, depuis 4 heures du matin, la veille, pour attendre le camion qui amène à manger des hommes, des femmes, des enfants, qui attendent qu'on leur donne un peu à manger. Quel niveau, quel ahwal, Allahu Akbar. Vous n'imaginez, on ne peut même pas se projeter dans cette situation. On serait incapable de vivre ça. Quelle déchirure, quelle douleur, la ilaha illallah. Quel volume. Et là, Ramadan arrive. Je pense qu'à chaque fois qu'on va rompre le jeûne, là, il faut qu'on ait une invocation pour nos frères et sœurs en Palestine. On ne peut pas manger, boire et être heureux, content. Il ne doit pas y avoir de joie réelle qui baigne notre cœur. Ce n'est pas possible. On est impuissant, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à part nos invocations. Je disais donc, ce que je voulais dire, c'est que le Prophète cite dans un hadith que parmi les joies du jeûneur, ça je dis avec beaucoup de pudeur parce que en pensant à ça, j'avais pas envie de compléter. Le Prophète dit que parmi les joies du jeûneur, c'est inda fitrihi. Quand il rompt son jeûne, en créole on dit casse carême. En mauricien, comment il dit? Quand on va rompre le jeûne et qu'on mange, ça c'est un bienfait qu'Allah t'accorde. Donc mange, profite et remercie ton Seigneur. Ça c'est un grand ni'ma, ça. Maintenant, imaginez la personne qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, son niveau d'appétit. Alors, on revient à cette histoire et puis on complète, on conclut. Le mari dit à son épouse, ne t'inquiète pas, fais dormir les enfants. Ça veut dire quoi, fais dormir les enfants? Fais-les dormir sans... Allahu Akbar. Fais dormir les enfants sans manger. Imagine Abdurrahman qui dit... Son épouse fait dormir Sadiad et Thania sans manger parce qu'il n'y aura pas assez à manger. Essaye de jouer avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Niveau de mujahada. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Hubbihi miskina. Miskina. Et le reste du récit, vous savez, on va un peu plus vite. Quand l'invité arrive, on l'accueille. Et quand il passe à table, on éteint la lampe. Vous savez, les lampes, enfin, vous savez, on entend les lampes avec de l'huile. Oui. Et on fait comme si que la lampe ne marche pas. On fait comme si qu'on est en train de réparer. Et lui, il ne nous verra pas. Il ne va pas nous voir. Donc, il va penser que tout le monde est en train de manger. Donc, on mange. Non, on ne mange pas. On fait comme si qu'on mange pour que lui, il ait tout à manger, pour que son ventre soit plein. C'est ce qu'ils ont fait. Yani, le sahaba, j'avais pas fait de recherche sur ce récit, sinon j'aurais le nom, c'est quelqu'un qui connaît le nom de sahaba, Allah ybarik fi. Cet homme, sa femme, ses enfants, ils ont tous dormi ce soir le ventre vide. Mais l'invité d'Allah, l'invité du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé le ventre plein, alhamdulillah, il était content. Il n'est pas parti revoir le Prophète pour dire, mashallah, j'ai bien mangé. Non, fini, khalas, il est parti. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de ce verset. Allah a observé min fawqi sab'i samawat rabbuna al-mustawa 'ala al-'arsh, qui connaît ce qui s'est passé de l'obscurité de la nuit dans cette maison où il faisait noir volontairement le sacrifice. Allah a vu ses enfants qui se sont couchés le ventre vide et cette famille qui ont fait passer la recherche du contentement d'Allah avant leur propre désir, leur propre besoin. Verset du Coran qui sera lu jusqu'au Qiyama à propos de cette famille. Donc, cette anecdote, cette histoire résume bien que donner alors que nous-mêmes, on est dans le besoin. Et quand il donne, Leur objectif, c'est quoi? Ce qu'on a lu, innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Je cherche la traduction. Oui, on est au verset 9. Ils disent, c'est pour... Après, c'est mal traduit, le visage d'Allah. C'est pas la bonne traduction. D'accord? C'est pour le... Mais je lis parce que j'ai pas de traduction pour le moment. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. C'est-à-dire, nous recherchons le contentement d'Allah uniquement. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Et là, les mufassirines, rahimahumullah, à la lumière de ce verset, disent que voilà une qualité propre aux croyants. La sincérité, à l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais pour Allah et tu n'attends strictement rien des gens. Ni suma'a, ni shuhra, ni ria. Tu veux pas qu'on te voie, tu veux pas que les gens entendent parler de ta générosité et tu ne veux pas que tu deviens mashhour, tu deviens célèbre pour avoir fait telle chose et telle chose. Ça, c'est le vrai, la véritable sincérité, la véritable ikhlas dans les bonnes œuvres. Que quand ils donnent à manger aux gens, ils ne veulent, n'attendent même pas un remerciement. Il y avait un récit, je pense que c'est Aïcha radiallahu anha, quand elle donnait à manger, quand elle confiait de la sadaqa ou de la nourriture à certaines personnes pour les distribuer aux pauvres, il dit que quand tu remets cet argent ou cette nourriture, quand c'est terminé, tourne le dos et va-t'en. N'attends même pas des remerciements. Même pas, jazakallah khair, même pas. Pourquoi? Parce que il faut que ce qu'on a accompli là, ce qu'on a fait comme bonne action, qu'on ait au zéro retour. Même pas une parole de gratitude. Pour qu'Allah nous accorde à 100% de l'au-delà. Ça, c'était la vision, la compréhension des sahabes de nos jours. Tu aides une personne. Imagine, quelqu'un tend la main, dit voilà, j'ai tel problème. Tu lui donnes un billet de 10 euros. Il prend, il dit, il part. Qu'est-ce que tu fais? Allah me pardonne, ça m'est arrivé une fois. J'ai donné à quelqu'un et il voulait plus en fait. Il voulait peut-être un peu plus d'argent, j'ai donné ce que j'avais et il a rien dit. Mais moi je dis, mais au moins dis merci, j'ai eu tort. Non, c'est humain ça, non? C'est humain. Je dis, au moins dis merci. Et jusqu'à maintenant, je m'en souviens, ça remonte à 6 ans, ça. Et je me dis que je me suis trompé. J'ai eu une réaction humaine, mais c'était à tort. Non, sahaba, ils ont compris. Il faut même, n'attend même pas un remerciement. Là, nous lit dominikum jaza'an wa la shukura. Franchement, quand on lit, on étudie ces versets et qu'on arrive à mettre en parallèle avec les sahaba qui l'ont mis en application, ça te permet de comprendre mieux la vie et de te rendre compte que tu n'as pas forcément les bonnes réactions de foi et quel est le niveau à atteindre pour obtenir le contentement d'Allah et pour devenir de vrais croyants, de vrais musulmans. Naam. On va s'arrêter à la pause ce soir, Inch'Allah, concernant le tafsir. On est déjà à 23 minutes. On se permet 5 minutes. Mes chers frères, en 5 points. Je vous annonce une mauvaise nouvelle et ensuite une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est A'udhu billahi minash shaitani rajim wal 'asri
innal insana
lafi khusr. L'être humain est dans la perdition. C'est-à-dire que si on vit avec nos pulsions, nos passions, avec l'attrait uniquement pour ce dunya, on est dans la perdition. Illa alladhina wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. C'est qu'à l'exception de ceux qui ont iman, qui accomplissent de bonnes œuvres et qui s'entraident mutuellement dans la vérité et dans la patience. C'est le sens du verset. Hein. Il y a de meilleures traductions, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que si on a iman et qu'on est à fond dans les bonnes œuvres, on n'est pas la fi khusr. On n'est pas dans la perdition. Bien au contraire, on est aimé et aidé par Allah et notre passage de ce dunya est agréé par notre Seigneur et on est accepté par lui le jour des comptes. Et ce qui couronne cette bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours, on aura l'occasion de vivre par excellence le mois des bonnes œuvres, le mois où les portes des cieux sont grandes ouvertes. Les portes du paradis, pardon. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. C'est-à-dire qu'Allah t'accepte, Allah te donne et Allah guide ton cœur. Où est ton cœur? Montre-moi où est ton cœur. Non, ça c'est le sternum. Non, à droite, il y a quoi à droite, hein? Je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est sûr. Le cœur est à gauche. Et ouais. Si tu mets ta main, tu entends ton petit cœur battre. Allah guide ton cœur durant ce mois béni. Les portes du paradis sont ouvertes. Il y a beaucoup, je ne vais pas entrer dans beaucoup d'explications, des détails. Il y a des hadiths avec des charhs comme ça. Que Allah guide ton cœur. Allah met la lumière dans le cœur de chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pour ça qu'on voit des gens qui étaient éloignés complètement de la masjid et qui reviennent. Ne les prends jamais de haut. Ne les prends jamais de haut. N'aie jamais une mauvaise pensée à leur propos que ouais, là maintenant il revient alors. Un an fini, na'oudou billah. Allah a mis le nour dans son cœur, il revient. Nous allons vivre un mois où les portes de l'enfer sont fermées. Et les muhadithin disent que sarful himami anil ma'asi wa shahawat. Allah éloigne ton cœur des pulsions qui t'emmènent vers le jahannam. C'est-à-dire que tu te rends compte dans le mois de Ramadan que les péchés qui t'empoisonner la vie spirituelle, tu n'as plus envie de les faire. Contrôler tes regards, c'est facile. Contrôler ta langue, ça devient plus simple, et ainsi de suite. Ton cœur ne penche plus vers les péchés. Nous allons vivre un mois où toutes les conditions donc sont réunies pour que nous devions de pieux serviteurs d'Allah et que nous augmentions notre quota de bonnes actions et nous restons totalement éloignés des péchés parce qu'entre autres shaitan, les shayatrines sont enchaînés, emprisonnés. Également, durant ce mois, Allah déverse quantité de rahma, de bénédiction, de baraka, non, rahma de clémence, de baraka, de bénédiction, et de maghfira, de pardon. Durant tout le mois de Ramadan. Et c'est pas terminé. Si tu t'accroches aux 20 premiers jours, Allah nous accorde quelque chose qui dépasse l'entendement. En termes de promesses, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À un tel point qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Allah nous accorde Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Une nuit qui vaut plus que mille mois. Et mille mois, ça fait combien de jours? J'avais écrit, hein, mais la somme ne me revient plus. Mille mois, 80 années, non? Ou 83, un truc comme ça. Hein? Une vie. Quelle est l'espérance de vie en France en ce moment pour un homme? C'est 80, il me semble. Et pour une femme, c'est 80, moins que ça. Ah, là aussi, il y a l'inflation. La ilaha illallah. Non. Les hommes, c'est 80 et les femmes, 82, il me semble. Quand j'étais au lycée, c'était comme ça. Si ça a diminué, c'est que... Ça a diminué? Non, mais on vit plus longtemps. Enfin, après, allez. Oui, après, on a eu les vaccins contre le Covid, donc ça a diminué. OK? Considérez qu'on a perdu quelques années. Trois doses, trois années de moins. Je disais donc, une nuit de Laylatul Qadr, c'est une vie. Et encore quand on dit une vie, si je meurs à 80 ans, je n'ai pas fait 80 années de Ramadan, non. J'ai commencé à jeûner à partir de 13 ans, 14 ans, et ainsi de suite. Bref, tout ça Allah nous accorde. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, quand le mois de Ramadan arrivait, il annonçait la bonne nouvelle aux sahaba. Min babi targhib. Alors que les sahaba, ils savaient qui avait plus de connaissances que les sahaba. Allahu Akbar. Le prophète me faisait un rappel sur, je cite pas le hadith, mais j'ai cité le contenu du hadith. Qu'est-ce qu'Allah nous accorde durant ce mois? Et quand le prophète, alayhi salat wa salam, annonce, il fait ce rappel aux sahaba, c'est, l'objectif, c'est que les sahaba, que ce soit un rappel pour eux. Les savants disent que mimbab il ilm. Pour que chacun prenne conscience de ce que nous allons bientôt vivre. Pour s'y préparer. Et la préparation, elle commence au niveau du cœur. An-niyya. Innamal a'malu bin. Les actions ne valent que par un sajjad. Ton cœur est là. T'inquiète. Il est content, il a vu ça. Est-ce que tu l'entends? Allahu Akbar. Les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que si dès maintenant, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, vous savez que quand un musulman, fait l'intention d'accomplir une bonne action, Allah demande aux anges d'inscrire et d'écrire tout de suite la bonne action dans son livret de compte. Allahu Akbar. Et s'il l'accomplit, Allah demande aux anges de multiplier par 10 au minimum. Et si jamais il n'arrive pas à l'accomplir, l'action, la récompense est déjà inscrite dans ses bonnes. Donc, quand on entend, vous avez déjà entendu plusieurs appels, hein, ce mois de Ramadan, quand on sait qu'est-ce qu'on va vivre dans quelques jours, le croyant doit commencer à planifier son mois de Ramadan. Parce que là, on a commencé avec le niyya, et tu commences avec le niyya, tu as déjà la récompense, ça c'est le karam d'Allah Rabbul Izzah, la générosité de notre Seigneur. Dès maintenant, assieds-toi, toi d'une table avec ton épouse, avec tes enfants, et dis voilà, comment on s'organise. Là, Ramadan, on oublie la PS5. Tu as PS5, toi?
Quoi?
Non.
Non.
Non. Papa va t'offrir pour Eid, Inch'Allah. Ramadan, tu oublies le... C'est comment ça s'appelle le petit truc, là? Switch. Tu as une Switch?
Non.
Bah, il y a un numéro V, hein, il faut appeler. Hein. On oublie la Switch, on oublie Netflix, on oublie Prime Video, je sais pas, tout ça. Je dis ça parce que je paye tout ça. Je paye tout ça. C'est pour ça que je connais les noms. On oublie les distractions, la Ligue des Champions, on oublie tout ça, et ainsi de suite. On oublie toute le dunya. On se concentre autour du ibad. Parce que ce qu'Allah nous accorde durant ce mois, on ne le retrouvera à aucun autre moment de l'année. Et donc, on commence à préparer. Le suhoor, c'est jusqu'à 5 heures, il me semble, non? 5 heures. Comment on s'organise? Et là, on fait le niyya. On se dit qu'il nous faut au minimum 30 minutes de qiyam ou de tahajjud. Donc, il faut que à 4h, on soit déjà sur le Moussalla, jusqu'à 4h30. Il me faut 15 minutes de doua, 10 minutes de stirfar. Bon, l'heure 4h, c'était pas bon. On réorganise, et il faut manger pendant 20 minutes. Faites le niya de tahajjud. Faisons le niya des doua, des invocations, de le denitia de la nuit. Faisons le niya de stirfar, beaucoup de stirfar, au moment où Allah demande « Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah ». Faisons le niya de nos 5 salats hein, en premier rang. Faisons le niya de mon tous les jours, de dhikrullah, de temps de juz qu'on va lire, Qur'an et ainsi de suite. Faisons l'intention tous les soirs. Soit j'invite quelqu'un pour rompre le jeûne chez moi. Soit je prépare, take away, un plat et je vais trouver quelqu'un pour lui donner un repas complet. Donc l'objectif c'est de commencer à fixer nos bonnes intentions et nos objectifs à atteindre. Et troisièmement, quand tu as fixé tes intentions, tu demandes à Allah de t'aider. On fait doigt dès maintenant, ben je pense qu'on a déjà commencé, on doit faire doigt tout le temps. Ya Allah, accepte-moi, Ya Rabb, pour vivre ce mois de Ramadan, fi ta'a, de l'obéissance, en restant éloigné des péchés, accorde-moi ta offre de me réveiller tous les soirs, pour faire qiyam ul-layl, donne-moi la concentration, la dévotion de mes salats, l'assiduité, ou Allah, que dans la salat al-tarawih, j'écoute chaque verset, que la parole, ta parole pénètre mon cœur, que ça augmente mon iman, et ainsi de suite. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. C'est uniquement Allah qui peut guider ton cœur. Donc, demandons à Allah la guider et l'acceptation pour les bonnes actions, et la force de rester éloigné des péchés durant ce mois béni. Donc mes chers frères, préparons-nous, fixons nos intentions et nous devons ressentir une joie. Dès maintenant, il ne faut pas laisser Shaitan, parce que Shaitan il connaît que Ramadan, la veille Ramadan, khalas, il est au chômage technique pendant un mois. Mais là, il va essayer de te faire, ah oui mais Ramadan, là ça va être dur, hein? Les gars peuvent aller jouer au football, les gars peuvent aller jouer, un nouveau sport à la mode là, paddle, je n'ai rien compris c'est quoi. Ah, il ne peut jouer paddle, les gars ne peuvent pas garder des champions. Il va te dire, là on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas manger, on aura faim, on aura soif, il fait chaud, ainsi de suite. Écarte tout ça, il ne peut pas faire ça. Bilax, au contraire, chaque moment de difficulté, faim, soif, mal de tête, manque de sommeil, c'est pour Allah. Rechercher l'agrément d'Allah. Et ce sont peut-être les seuls sacrifices qu'on fait pour Allah de notre vie. Donc mes chers frères, on va s'arrêter là. Qu'Allah nous accepte. Accepte ce majlis, nous permet de développer la sincérité et de faire le l'aumône à la recherche du contentement d'Allah. Ce que j'ai oublié de dire, faisons attention quand on parle de sincérité de l'aumône, pour revenir au tafsir, attention aux réseaux sociaux. C'est un danger. De nos jours, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut que tout le monde voit. Je donne, je mène une action, je veux que ce soit sur Twitter, non, il n'existe plus Twitter, sur X, même j'aime, hein, sur les réseaux sociaux, il faut qu'Instagram, il faut Snapchat, il faut que tout le monde voit. Attention, attention. Ça, c'est un danger, ça. Ça annule tes bonnes œuvres si ton objectif, c'est de, si tu fais pour faire voir aux gens, khalas. Allah est tayyib, ma yaqbal illa tayyib. Allah n'accepte pas de nier dans une action. C'est soit tu le fais pour Allah, et si tu fais pour Allah et pour les gens, khalas. Allah n'accepte pas, qu'Allah nous protège. Donc, il fallait le dire, attention aux réseaux sociaux. Donc, Allah donne la sincérité dans nos bonnes œuvres et que nos bonnes actions restent toujours cachées. D'accord? Et qu'Allah nous permet de vivre un mois avec intensité, dévotion, concentration, présence de cœur et nous permet de faire le maximum d'efforts et qu'à l'issue de ce mois, nous soyons pardonnés de tous nos péchés et qu'Allah nous accorde la istiqama, la fermeté pour l'accomplissement de bonnes actions et rester ferme dans les bonnes œuvres que nous allons accomplir durant ce mois béni. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Vendredi prochain, on fait pas de programme, c'est des petites vacances. Donc, c'est notre dernier programme avant Ramadan et on se reverra ba la charfa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah. Jazakallah.